3. Sans doute était-ce à quelque démon de la perversité, ou bien à l'influence sardonique d'une mystérieuse force de l'ombre, que je devais ce soudain revirement dans mes projets. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je me hâtais justement vers la grande place pour quitter au plus vite cette cité purulente, ce territoire de décrépitude et de mort, quand la vue du vieux Zadok Allen dévia le cours de mes pensées et me fit ralentir le pas avec hésitation. On m'avait pourtant mis en garde. Je ne pourrais rien tirer de ce vieillard sinon des fragments sans queue ni tête d'absurdes légendes, et les autochtones voyaient d'un très mauvais œil les étrangers pris en train de discuter avec lui. Mais l'idée de me trouver face à cet antique témoin du déclin de la ville, cette mémoire des premières heures des navires et des fabriques, exerçait sur moi un attrait qui éclipsait tout jugement. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent qu'allégories et symboles d'une réalité plus profonde. Et le vieux Zadok avait vécu à Innsmouth pendant près d'un siècle. Ma curiosité l'emportait sur toute forme de prudence ou de raison, et l'arrogance de la jeunesse aidant. Je m'imaginais capable d'extraire quelques pépites de vérité historique du torrent de paroles délirantes et confuses qu'un peu de whisky ne manquerait pas de déchaîner. Je savais bien qu'il m'était impossible de l'aborder dans l'immédiat, car les pompiers m'auraient alors remarqué et probablement repoussé. Le plus judicieux, me dis-je, serait de commencer par me procurer un peu d'alcool de contrebande, à l'endroit où le garçon d'épicerie m'avait assuré qu'il y en avait à profusion. Puis j'irai traîner, l'air désœuvré, du côté de la caserne, où je pourrais accoster le vieux Zadok au départ d'un de ses fréquents vagabondages. À en croire le jeune homme, il se déplaçait sans cesse et restait rarement assis plus d'une heure ou deux devant la caserne. Je trouvais sans mal, mais à grands frais, un litre de whisky dans l'arrière-boutique d'un bazar crasseux à quelques pas de la grande place, dans Elliot Street. L'individu malpropre qui me servit avait quelque chose de la fixité, du masque d'Innsmouth, mais il se montra fort courtois à sa manière. Sans doute avait-il adopté les usages des nombreux étrangers de passage, camionneurs, acheteurs d'or et autres du même acabit, qui devaient faire appel à ses services. De retour sur la place, je compris que la chance me souriait, car cette silhouette haute, maigre et déguenillée qui émergeait pesamment de Payne Street et tournait au coin de la pension Gilman n'était autre que celle du vieux Zadok Allen lui-même. Conformément à mon plan, j'attirai son attention en brandissant la bouteille dont je venais tout juste de faire l'acquisition, et ne tardai pas à le voir se diriger vers moi, le pas traînant et l'air sombre, tandis que je tournais dans Waite Street pour y trouver le coin le plus désert possible. À l'aide du plan dessiné par le garçon d'épicerie, je comptais rejoindre le secteur désert des quais au sud, où j'étais déjà passé un peu plus tôt. Les seules personnes susceptibles de nous y remarquer seraient les rares pêcheurs installés sur la digue lointaine, et il me suffirait de descendre encore un peu plus au sud pour nous mettre définitivement à l'abri des regards. Trouver un quai abandonné où s'asseoir ne présenterait aucune difficulté. Et je pourrais alors interroger à loisir le vieux Zadok. Avant d'atteindre Main Street, j'entendis derrière moi une voix faible et sifflante. « Eh, monsieur !» Et je me laissai rattraper par le vieillard pour lui permettre de boire déjà au goulot quelques généreuses gorgées de whisky. Je commençai à le sonder discrètement pendant que nous traversions un quartier dévasté de taudis, en équilibre précaire. Mais je me rendis bientôt compte que la langue du vieillard ne se délirait pas aussi facilement que je l'avais prévu. Je distinguai peu après une trouée entre deux pans de mur croulants, que l'herbe avait conquis et qui donnait sur la mer, et au-delà la langue de ciment d'un quai envahi par les algues. Près de l'eau, un empilement de pierres recouvertes de mousse pourrait nous accueillir sans trop d'inconfort, tandis qu'au nord, un entrepôt en ruine nous abriterait de tout regard indiscret. C'était, selon moi, l'endroit idéal pour un long entretien que je voulais garder secret. Je guidais donc mon compagnon jusque sur le quai, et nous trouvait des pierres plates où nous asseoir. Il régnait alentour une atmosphère d'abandon et de mort absolument macabre, ainsi qu'une odeur de poisson presque intolérable. Mais j'étais déterminé à faire parler ce vieillard coûte que coûte. Il me restait environ 4 heures avant le départ du bus de 20 heures pour Arkham. Et, tout en mangeant mon frugal déjeuner, j'accordai de nouvelles lampées à l'ivrogne sans âge, assis devant moi. Je veillais toutefois à ne pas l'imbiber trop généreusement, de peur que sa faconde alcoolique ne sombre dans l'hébétude. Au bout d'une heure, sa méfiance taciturne sembla se dissiper, mais il ne cessait encore, à ma grande déception, d'éluder mes questions sur Innsmouth et les ombres de son passé. Il ne faisait que bafouiller des remarques sur l'actualité, faisant preuve d'une vaste connaissance de la presse et d'une certaine propension à ratiociner, tel un villageois sentencieux. Vers la fin de la deuxième heure, je craignis que ma bouteille de whisky ne suffise pas à produire les résultats escomptés, et je me demandais s'il n'était pas plus sage de laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher une autre. C'est à ce moment précis que le hasard m'offrit ce que mes questions n'avaient su provoquer, et que les divagations asthmatiques de l'ancêtre prirent un tour qui m'incita à me pencher vers lui et à dresser l'oreille. Je tournai le dos aux vagues en pestant le poisson, mais lui leur faisait face et ses yeux s'attardèrent bientôt sur la ligne basse et lointaine du récif du Diable, dont le fascinant profil affleurait nettement au-dessus des flots. Cette vision parut lui déplaire, car il se répandit alors en faibles imprécations à voix basse, bientôt assourdi en un inaudible murmure, qu'il appuya d'un regard entendu. Puis il se pencha vers moi, agrippa les revers de mon veston et se lança dans cette terrible confidence dont la terreur ne pouvait m'échapper.
« C'est là-bas que tout a commencé. Cet endroit maudit où naissent les profondeurs et toute la cruauté de ce monde. La porte de l'enfer. Ça descend tout droit jusqu'au fond, là où aucune ligne de son ne peut y aller. C'est de la faute au capitaine Obed, tout ça. C'est lui qui a trouvé plus qu'il aurait dû dans ces îles de la mer du Sud. Tout le monde était au plus mal à cette époque. » Avec le commerce qui cassait la fiole et les usines qui tournaient plus, même les plus neuves, et puis nos meilleurs gars, ceux qu'on avait recrutés comme corsaires, s'étaient fait tuer en mer pendant la guerre de 1812, alors ça avait coulé à bord d'Elsa ou du Ranger, c'était le brick et le chaland des Gilman. Obed Marsh, il avait trois bateaux à flot. Il y avait le brigantin Columbia, le brick Hetty, et son trois mâles, Sumatra Queen. Il n'y avait plus que lui pour traiter avec les Indes et le Pacifique, même si la goélette d'Estra Martin, le Malay Bride, y a fait un dernier petit tour en 28. Elle était unique en son genre, le capitaine Obed, vieux suppôt de Satan. Je l'entends encore nous raconter ses histoires de pays perdus à l'autre bout du monde. Ou bien traiter tous les habitants d'idiots parce qu'ils y allaient à la messe et qu'ils portaient le poids de leurs péchés sans rien dire. Feriez mieux de vous trouver des dieux comme ceux de la Polynésie qui disaient, des dieux qui donnent plein de prescailles en échange de sacrifices et qui répondent aux prières qu'on leur fait. Matt Elliott, son second, était plutôt bavard lui aussi, sauf qu'il était contre ces diableries-là. Il parlait de cette île à l'est de Tahiti où il y avait plein de ruines tellement vieilles que plus personne savait rien sur elle. Pareil qu'à Ponape dans les Carolines, mais avec des visages sculptés qui ressemblaient aux gros statues de l'île de Pâques. Il y avait un petit îlot volcanique juste à côté, avec des sculptures encore différentes, toutes abîmées, ce qu'il en sortait de l'eau, et toutes couvertes d'images de monstres affreux. Eh ben, monsieur, Matt, il disait que les sauvages de ce coin-là, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient et qui portaient des bracelets et des anneaux de bras et des couronnes taillées dans l'or bizarre et tout couvertes d'images de monstres pareils à ceux qui étaient sculptés sur les ruines qu'émaillait l'îlot. Des sortes de crapauds poissons ou de poissons crapauds dessinés dans tout plein de positions comme si c'était des êtres humains. Impossible de leur faire avouer d'où que ça provenait. Et tous les autres sauvages, ils se demandaient comment qu'ils trouvaient tout ce poisson alors que la pêche était maigre dans les îles voisines? Matt, ça l'intriguait aussi, et le capitaine Obed, pareil. Et puis le capitaine l'a remarqué aussi qu'une bonne partie de la jeune génération disparaissait d'une année sur l'autre, et qu'on voyait plus beaucoup de vieux non plus dans le coin. Puis, il s'est mis à trouver certains de ces gens-là un air franchement bizarre, même pour des sauvages. Il y avait qu'Obed pour découvrir la vérité sur ces païens. Je sais pas comment qu'il a fait, mais il s'est mis à leur troquer des trucs contre leurs bijoux en espèces d'or, à leur demander d'où qu'ils venaient et s'ils pouvaient en avoir plus, À force, il a fini par tirer les vers du nez de leur grand chef, Wallakea, qu'il l'appelait. Personne d'autre que Kobed avait jamais voulu croire ce vieux démon cuivré, mais le capitaine, il pouvait lire dans les gens comme dans des livres. Maintenant, c'est moi que plus personne croit quand je leur raconte. Et ça fera pareil avec vous, mon petit gars. Quoiqu'à bien y regarder, vous avez un peu les yeux perçants du vieil Obed.
Les marmonnements du vieillard se firent encore plus faibles, et je me surpris à frissonner devant la profonde et sincère gravité qu'il insufflait à ses paroles, quand bien même je savais que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne.
Sachez bien, monsieur, qu'Obed l'a appris qu'il y avait sur cette terre des choses que presque personne n'a jamais entendu causer, et que personne croirait si on leur racontait. Apparemment, ces sauvages sacrifiaient des tas de leurs jeunes gars et leurs jeunes filles à des espèces de dieux qui vivaient sous la mer, en échange de toutes sortes de faveurs. Ils allaient rencontrer ces bestioles-là sur la petite île aux ruines étranges, et il paraîtrait que les images affreuses de crapauds poissons monstrueux étaient censées représenter ces saletés. Ça se trouve, c'est de ces bestioles que viennent toutes les histoires de sirènes et de machins dans le genre. Vous avez des espèces de villes tout au fond de la mer, et c'est de là qu'avait surgi l'îlot. Certaines de ces créatures vivaient encore dans les bâtiments de pierre quand l'île était montée à la surface. Et c'est comme ça que les sauvages avaient découvert tout ce qui s'y cachait sous l'eau. Ça les a sacrément effrayés, pour sûr, mais ont fini par s'y faire et par leur causer en langue des signes, et avant longtemps, ils faisaient commerce ensemble. Les bêtes-là, elles aimaient les sacrifices humains. Ils y avaient eu droit des millénaires plus tôt, mais avaient perdu contact avec le monde d'en haut depuis. Ce qu'ils faisaient à leurs victimes, je pourrais pas vous dire. Et je parie qu'Obed s'est pas trop attardé sur le sujet. Et ça leur a été bien égal à ces sauvages, parce que les temps étaient durs et ils étaient prêts à tout. Ils offraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer deux fois par an, à chaque nuit de Valpurgis et chaque Halloween, réglé comme du papier à musique, c'était... Il leur refilait aussi des babioles qu'ils fabriquaient en échange. Les créatures leur envoyaient tout plein de poiscailles qu'elles allaient chercher dans tous les coins de l'océan, et parfois quelques breloques faites de cette espèce d'or bizarre. Comme je vous disais, les indigènes rencontraient les bestioles sur ce petit îlot volcanique. Ils y allaient en canoë avec les gens à sacrifier et tout le toutim, et repartaient avec les bijoux qu'on voulait bien leur donner. Au début, les créatures restaient dans leur coin, à l'écart de l'île principale. Mais au bout d'un moment, elles ont commencé à s'en approcher. Il semblerait qu'elles cherchaient à se mêler aux humains et célébrer leur grande fête avec eux, la nuit de Valpurgis et l'Halloween, comme je vous disais. Parce qu'elles étaient capables de vivre aussi bien dans l'eau qu'en dehors, comprenez? Des amphibies, que ça s'appellerait. Les sauvages leur ont dit que c'était pas bien prudent parce que les voisins des autres îles voudraient sûrement les massacrer s'ils apprenaient qu'ils traînaient dans le coin. Mais les créatures ont répondu qu'elles s'en fichaient bien, qu'elles pourraient massacrer toute la race humaine si elles voulaient, sauf ceux qui porteraient les signes utilisés dans le temps par les anciens disparus ou quelque chose dans le genre. Mais pour pas faire de scandale, elles allaient se cacher si jamais quelqu'un venait visiter l'île. Quand ces poissons crapauds ont proposé de s'accoupler avec eux, les sauvages ont commencé par grogner, puis ils ont appris quelque chose qui leur a fait voir l'affaire sous un nouveau jour. Semblerait que les êtres humains seraient en quelque sorte de la même famille que ces bestioles marines, que tout ce qui vit serait sorti de la mer dans le passé, et qu'il suffirait d'un petit changement, rien du tout, pour que ça y retourne. Les créatures ont dit aux sauvages qui s'y mêlaient les uns aux autres, ça ferait des enfants qui auraient l'air humains au début, puis qui seraient de plus en plus comme ces monstres en vieillissant, jusqu'à finir par entrer dans l'eau et retrouver le reste de la troupe dans le fond des océans. Et c'est là qu'il faut ouvrir vos esgourdes, jeune homme. Ceux qui seraient devenus des poissons et qui seraient partis dans l'eau, ils mourraient jamais. Ces bestioles-là, elles mourraient pas, sauf si on les zigouillait. Et ma foi, monsieur, il semblerait bien que les gens des îles étaient déjà tout pleins de sang de poisson quand le capitaine Obed les a rencontrés. Quand ils vieillissaient et que ça commençait à se voir de trop, on les cachait jusqu'à ce qu'ils décident de se mettre à l'eau et de partir. Il y en avait qui étaient plus atteints que d'autres, et même certains qui changeaient jamais assez pour retourner à la mer. Mais la plupart finissaient exactement comme les bestioles elles avaient dit. Ceux qui naissaient en leur semblant déjà se transformaient rapidement. Mais ceux qui étaient plus humains restaient parfois sur l'île jusqu'à leurs 70 ans. Même s'ils faisaient des petites tentatives sous la surface de temps à autre. En général, ceux qui s'étaient définitivement mis à l'eau passaient souvent en une petite visite sur l'île. Alors il faut s'imaginer qu'un type pouvait parfois se retrouver à tailler le bout de gras avec son 5 fois grand-père qui a quitté la terre ferme pas loin de 200 ans plus tôt. La mort voulait plus rien dire pour eux. Et avec les guerres de canoë contre les autres îles, les sacrifices aux dieux du fond de la mer, les morsures de serpents, la peste et l'une ou l'autre de ces maladies foudroyantes qui, à part chez eux, qui pouvaient les empêcher de finir sous l'eau. Ils aient tous qu'attendre une sorte de changement qui avait fini par leur paraître normal avec le temps. Ils s'imaginaient qu'ils s'en tireraient à bon compte, et je crois qu'Obed l'a fini par penser la même chose après qu'il eut ruminé un peu tout ce que lui avait raconté le vieux Walakea. Celui-là, c'était un des seuls qui avait pas de sang de poisson, puisqu'il était de la famille royale qui se mariait avec les familles royales des autres îles. Walakea l'a enseigné à Obed plein de rituels et d'incantations qui avaient rapport avec des créatures de la mer, et a fait voir certains villageois qui avaient plus grand-chose d'humain. Ceci dit, il n'a jamais voulu lui montrer la moindre de ses créatures sorties de l'eau. Pour finir, il a offert un drôle de gris-gris en plomb ou quelque chose, qui d'après lui pouvait faire remonter à la surface les créatures poissons n'importe où dans le monde, ou qui pourraient avoir un nid. Il suffit de le balancer à la flotte avec des bonnes pierres et tout le reste. Walakea disait que ces bestioles étaient présentes dans tous les océans, et qu'en cherchant bien, n'importe qui pouvait repérer un nid et les appeler quand il y avait besoin. Mats, ça lui disait rien qui vaille, cette affaire-là. Il répétait à Obed de ne pas s'approcher de cette île. Mais le capitaine était à Proguin, et il voyait qu'une chose, ces drôles de bijoux qu'il achetait tellement pas cher que ça pouvait bien lui rapporter gros, pour peu qu'il s'en fasse une spécialité. Et au bout de quelques années, Obed avait amassé assez de machins dorés pour démarrer sa raffinerie dans le vieux moulin à Foulon en ruine des Ouettes. Il n'osait pas vendre les bijoux en l'état, parce qu'on aurait posé trop de questions. Mais de temps à autre, ses ouvriers en chipaient un pour le revendre, même s'ils avaient juré de garder le secret. Mais aussi, il laissait les femmes de sa famille emporter certains qui avaient l'air un peu plus de facture humaine que les autres. Puis, vers 38, quand j'avais 7 ans, Obed a découvert que depuis son dernier voyage, ces sauvages avaient été massacrés jusqu'au dernier. Semblait que les voisins des autres îles avaient eu vent de ce qui se passait chez eux et qu'ils avaient décidé de prendre les choses en main. Sans doute qu'ils devaient avoir ces vieux signes magiques que les créatures disaient que c'était les seules choses qu'elles craignaient. Puis on peut pas savoir sur quoi qu'ils mettent la main, ces sauvages, quand le fond de la mer recrache une île pleine de ruines plus vieilles que le déluge. Ils rigolaient pas, en tout cas. Ils avaient rien laissé de boue dans la grande île comme dans le petit îlot volcanique, sauf les ruines, qui étaient trop grosses pour qu'ils puissent les abattre. Ils avaient éparpillé un peu partout des petits cailloux, comme des talismans, avec des dessins comme ceux que ça s'appelle des svastikas de nos jours. Peut-être ben que c'était ça le signe des anciens. Bref, tous les sauvages zigouillaient, plus de traces des bijoux dorés, et vu que les autres sauvages voulaient pas souffler mot de leur affaire. Il n'y aurait même jamais eu personne sur l'île qu'ils osaient dire. Circuler, il n'y a rien à voir. Forcément, c'était un sacré coup dur pour Obed, vu que son commerce normal l'allait déjà pas bien fort. Et tout le monde à Ismousse se retrouve dans le même panier, puisque du temps de la machine, ce qui rapportait au capitaine rapportait pareil à l'équipage. La plupart des gens de la ville, ils ont encaissé cette mauvaise période comme des moutons résignés, mais étaient en sale état à cause que le poisson se mettait à manquer dans le port et que les fabriques tournaient plus beaucoup. C'est là qu'Obed y a commencé à gueuler que tout le monde se comportait comme du bétail en chemin pour l'abattoir et que leur dieu, dans son joli paradis, y bougeait pas le petit doigt pour eux. Ils connaissaient des gens que leur dieu leur donnait tout ce qu'ils avaient vraiment besoin. Et que si assez de gens se rangeaient de son côté, il pourrait peut-être en appeler à certaines puissances qui ramèneraient des tas de poissons et même un bon paquet d'or. Évidemment, ceux qui servaient sur le Sumatra Queen et qui avaient vu l'île savaient bien de quoi ils parlaient. Et ils couraient pas après l'idée de fricoter avec ces créatures de la mer qu'on leur avait parlé. Mais ceux qui savaient pas de quoi ils retournaient n'ont pas tardé à se laisser manipuler par Obed. Et ils se sont mis à lui demander comment qu'il pourrait les mettre sur le chemin de cette voie qui répond aux prières.
Soudain, le vieillard hésita, bafouilla, et finit par sombrer dans un silence morose et inquiet. De temps à autre, il jetait par-dessus son épaule des coups d'œil apeurés, puis se retournait pour contempler d'un air fasciné la ligne noire du lointain récif. Comme il refusait désormais de répondre à mes questions, je compris qu'il faudrait le laisser finir la bouteille. Cette incroyable histoire m'intéressait profondément, car je croyais discerner en elle une sorte d'allégorie grossière née de l'étrangeté d'Innsmouth et concoctée par une imagination créative bercée d'exotiques légendes. Pas un seul instant je n'avais accordé le moindre crédit à cette fable, mais elle n'en distillait pas moins une véritable horreur. Dû sans doute aux allusions à ces étranges bijoux, certainement semblables à cette odieuse tiare que j'avais contemplée à Newburyport. Il était, après tout, fort possible que ces parures proviennent d'une île mystérieuse et que ces légendes échevelées soient les mensonges de feu Obed Marsh plutôt que ceux du vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zadok, qu'il siffla jusqu'à la dernière goutte. Je m'étonnais de sa résistance à l'alcool, car le whisky n'avait en rien empâté sa voix rauque et stridente. Puis il lécha le goulot de la bouteille, la fourra dans sa poche, et se mit à dodeliner de la tête en se parlant doucement à lui-même. Je me penchai vers lui pour essayer de distinguer quelques mots articulés, et je crus le voir esquisser un sourire mauvais sous sa barbe grasse et touffue. Oui, c'était bien des phrases qu'il formulait, et je pus en comprendre une bonne partie.
« Pauvre Matt, n'avait toujours été compte. Essayait de mettre les gens de son côté, il causait pendant des heures avec les pasteurs. Mais il était trop tard. Ils ont chassé le pasteur congrégationniste hors de la ville, puis le méthodiste est parti, puis le passeur baptiste, Résolve de Babock qui s'appelait. On l'a jamais revu. Le courroux du Seigneur. J'étais rien qu'un petit mouflet, mais je comprenais quand même ce qui se passait. Dagon et Astaroth, Bélial et Belzébuth, le Vaudor et les idoles Canaan et des Philistins, les abominations de Babylone, Méné, Méné, Tekel ou Parsim. »
Il s'interrompit à nouveau, et la lueur de ses yeux bleus larmoyants me fit craindre qu'il sombre dans l'hébétude. Mais quand je lui secouai doucement l'épaule, il se tourna vers moi avec une surprenante vivacité et laissa échapper des paroles plus sombres encore.
« Vous ne me croyez pas, hein ? Alors dites-moi, jeune homme, pourquoi que le capitaine Obed et une vingtaine d'autres types partaient ramer jusqu'au récif du diable, en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on pouvait les entendre jusqu'à l'intérieur de la ville, quand le vent soufflait dans le bon sens ? Dites un peu voir, hein ? Ou pourquoi Cobel n'arrêtait pas de jeter des choses lourdes dans l'eau profonde, de l'autre côté du récif où que ça descend pareil qu'une falaise et qu'aucune sonde peut toucher le fond? Dites-moi ce qu'il faisait avec ce gris-gris informe bizarre que l'Oualaké lui avait affaire, hein, mon gars? Et qu'est-ce qui beuglait tout ça, Walpurgis, et aussi à l'Halloween? Et pourquoi que les nouveaux pasteurs, tous d'anciens matelots. Ils portaient des robes pas possibles et qui se recouvraient avec ces machins dorés comme aide à rapporter, hein.
Une lueur de démence presque sauvage avait presque envahi ses yeux humides, et sa barbe blanche et grasse se hérissait comme parcourue par un courant électrique. Le vieux Zadok remarqua sans doute mon mouvement de recul, car il se mit à ricaner de façon diabolique.
C'est tu qui commencerais à comprendre. Peut-être qu'il aurait aimé être à ma place en ce temps-là, quand je voyais des choses dans la mer la nuit, depuis la lanterne sur le toit de ma maison. Oh, les petits lardons ont bonnes oreilles, je vous dis que ça. Et je perdais rien de ce qui se racontait sur le capitaine Obed et les autres calés au récif. Et la fois où j'ai chipé la longue vue de mon père et j'ai vu la lanterne que le récif grouillait de forme qu'on replongeait fissa quand la lune s'élevait. Obed et ses gaz étaient dans un doris. Mais ces formes-là, elles ont plongé de l'autre côté du récif, dans l'eau profonde, et elles ont jamais remonté. Comment que ça vous dirait à vous d'être un petit morveux tout seul dans un lanterneau en train de regarder des formes qui seraient même pas humaines, hein?
Le vieillard devenait hystérique et je frissonnais, envahi par une indicible frayeur. Il posa sur mon épaule une main semblable à une pince noueuse, et il me sembla que l'hilarité n'était pas seule à faire trembler son bras.
Imaginez qu'une nuit, vous auriez vu Obed pousser quelque chose de lourd par-dessus son doris derrière le récif, et que le lendemain, vous auriez appris qu'un jeune type avait disparu de chez lui. Il n'y a personne qui a jamais revu ni entendu parler d'Hiram Gilman après ça. Tom Tamp? Ou Nick Pierce? Ou Louis Elliott, ou d'Adoniram Southwick, ou d'Henry Garrison. Des silhouettes qui causaient en langage des signes, pour celles qui avaient vraiment. Ma foi, monsieur, c'est à partir de là que le vent a tourné pour Obed. Les trois filles pavanées en ville, toutes couvertes de ces machins dorés qu'elles portaient pas avant, et la cheminée de la raffinerie s'est remise à fumer. Et les marches étaient pas les seules à prospérer. Il y avait tellement de poissons qui grouillaient dans le port, qui se mettaient tout seuls dans les filets, et Dieu seul sait combien de cargaisons qu'on a pu expédier à Newburyport, à Arkham ou Boston. C'est à ce moment-là qu'Obed l'a fait poser les rails de chemin de fer. Il y a bien eu quelques pêcheurs de Kingsport qui ont débarqué avec leur sloop pour profiter de notre poiscaille, mais ils ont tous disparu. Personne ne les a jamais revus. Et puis, c'est là que les gens d'ici ont créé l'ordre ésotérique de Dagon et ils ont racheté la loge maçonnique de la commanderie du Calvaire pour l'y mettre dedans. Matt Elliott l'était franc-maçon et s'y était opposé à la vente, mais... lui aussi, il a fini par disparaître. Attention, hein, je dis pas qu'Obed voulait que ça finisse comme sur l'île de ces sauvages. Je crois pas qu'il visait que les races se mélangent et fassent des petits qui se changeraient en poissons et qui vivraient comme toujours dans l'eau. Lui, ce qu'il voulait, c'était les bijoux, et il était prêt à tout pour ça, et ça avait l'air de leur convenir aux autres bestioles. Et tout le monde était content. Sauf qu'en 46, les gens de la ville ont commencé à se poser des questions et à y réfléchir à deux fois. Trop de disparitions, trop de serments d'excités pendant les messes, trop de rumeurs à propos du récif. Je pense que j'ai été un peu pour quelque chose en allant rapporter au conseiller Maurice que j'avais vu du haut de mon lanterneau. Alors une nuit... il y a un groupe qui a suivi la bande d'Obed jusqu'au récif, et j'ai entendu des coups de feu entre les doris. Le lendemain, Obed et 32 de ses gars étaient sous les verrous, avec tout le monde qui se demandait ce qui se passait, de quoi on allait bien pouvoir les accuser. Seigneur, si seulement ils avaient su ce qui les attendait. Au bout de 2 semaines, où que plus rien n'avait été jeté dans la mer.
Zadok montrait à présent des signes d'agitation et d'épuisement. et je le laissai en paix pendant un moment, tout en jetant des coups d'œil inquiets à ma montre. La mer montait désormais, et le clapotis des vagues sembla réanimer le vieil homme. J'étais pour ma part heureux de ce changement de marée, car l'odeur de poisson serait sans doute moins suffocante une fois le littoral recouvert. De nouveau, je me penchai pour écouter.
« C'est abominable nuit. Je les ai vus. Des perchés dans mon lanterneau, des hordes entières, des nuées. Ça pullulait sur le récif et ça remontait le port jusque dans le Manuxet. Seigneur, ce qui a pu se passer dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là. Il s'acharnait sur notre porte, mais pas voulu ouvrir. Et puis il est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son bousquet pour aller chercher le conseiller Maury et voir ce qu'il pouvait faire. Des piles de cadavres et types qui agonisaient. Des coups de feu et des hurlements. Ça beuglait de partout. Sur la vieille place et la grande place et New Church Green. Les portes de la prison défoncées. Annonce publique, trahison. Quand des gens de l'extérieur sont venus et qu'ils ont trouvé la moitié des habitants de la ville en moins, on a dit que c'était la peste. Il ne restait plus que ceux qui avaient accepté de rejoindre Obed et ses bestioles, et ceux qui allaient tenir leur langue. J'ai plus jamais revu mon pas après ça.
Le vieillard s'était mis à halter et à suer à grosses gouttes. Il resserra sa prise sur mon épaule.
T'avais tout nettoyé le matin suivant. Il restait des traces. Alors Obed, en quelque sorte, prit les choses en main. Il a déclaré que tout allait changer. Que les hôtes allaient venir communier avec nous pendant les cérémonies et que certaines familles allaient recevoir des invités. Ils voulaient se mélanger avec nous comme ils avaient fait avec les sauvages. Et Obed, il estimait que c'était leur droit. Il avait perdu tout sens de la mesure, le capitaine. Il était comme fou quand il en parlait. Il disait que nous avions affaire du poisson et du trésor et qu'ils méritaient de recevoir tout ce qu'ils étaient venus chercher. Fallait rien qu'on change en apparence, juste qu'on se tienne à l'écart des étrangers si on savait ce qui était bon pour nous. On nous a tous obligés de prêter serment à Dagon, puis certains d'entre nous ont fait un deuxième puis un troisième serment. Ceux qui rendraient des services spéciaux y recevraient des récompenses spéciales, de l'or et même plus. À quoi bon avoir des états d'âme puisqu'il y en avait des millions au fond de l'eau? J'avais pas particulièrement envie de prendre les armes et de massacrer toute l'humanité, mais... Et si qu'on les trahissait et qu'on leur forçait la main, ils pourraient s'en donner à cœur joie. On n'avait pas tous ces vieux gris-gris comme ceux des mers du Sud, nous. Et sûr que ces sauvages allaient jamais vouloir partager leurs secrets. Qu'on leur livre assez de sacrifices et de babioles de sauvages et qu'on les reçoive en ville et ils nous laisseraient tranquilles. Ils feraient pas de mal aux étrangers pour pas qu'ils aillent raconter des histoires à l'extérieur. Sauf s'ils fouinaient trop. Et tout le monde serait réuni dans la grande famille des fidèles de l'ordre de Dagon. Puis les nouveaux n'émourraient jamais, mais se retourneraient auprès de Mère Hydra et de Père Dagon, d'où qu'on est tous issus. Ya, ya, Cthulhu, Vtagn, Vtunglui, Nula, Naf, Cthulhu, Rele, Wagnal, Vtagn.
Le vieux Zadok délirait totalement à présent, et je retins mon souffle. Pauvre bougre. Dans quels pitoyables abîmes hallucinatoires l'alcool, ajouté à la haine de la déchéance, du métissage, de sa maladie, avait-il poussé cette imagination fertile et débridée? Il se mit à gémir, et des larmes dévalèrent ses joues ravinées pour se perdre dans les profondeurs de sa barbe.
Oh, Seigneur! Ce que j'ai pu voir depuis mes 15 ans. Méné, Méné, Tekel ou Farcine. Tous ces gens disparus, et tous ceux qu'on préférait se tuer. Ceux qui ont été racontés l'histoire à Arkham ou à Ipswich ou ailleurs se faisaient traiter de fous. Pareil que vous me traitez de fou en ce moment. Mais Seigneur, ce que j'ai vu. Il m'aurait tué depuis un bout de temps pour tout ce que je sais si Obed m'avait pas fait prêter le premier et le second serment à Dagon. Avec ça, j'étais protégé, sauf si un tribunal de fidèles prouvait que j'avais fait exprès de cracher le morceau, mais j'avais refusé le troisième serment. Qu'on me tue plutôt que ça. C'est devenu pire à l'époque de la guerre civile, quand les enfants nés depuis 46 ont commencé à grandir. Pour certains, en tout cas, j'étais terrorisé. Depuis cette horrible nuit, je voulais plus rien savoir de tout ça et j'ai jamais vu de près un seul de leur race dans toute ma vie, et qui serait de sang pur, du moins. Je suis parti pour la guerre et si j'ai eu un peu de grand bon sens, je me serais trouvé un coin tranquille loin d'ici et jamais je serais revenu. Mais non, on m'écrivait pour me dire que ça s'était arrangé. Sans doute à cause de la garnison d'appelés postés dans la ville depuis 63. Après la guerre, ça a recommencé tout aussi pire qu'avant. Il y avait de moins en moins de monde. Les fabriques et les boutiques ont fermé. On a arrêté de naviguer, le port s'est ensablé. On a laissé le chemin de fer à la rouille. Mais eux, ils s'arrêtaient jamais de venir de ce maudit récif de Satan et nager dans la rivière et près de la côte. Et on a condamné de plus en plus de greniers, et on entendait de plus en plus de bruit dans les maisons qui étaient censées y avoir personne dedans. Les gens de l'extérieur racontaient des histoires sur nous. J'avais dû en entendre pas mal, vu les questions que vous me posez. Des histoires à propos de ce qui apercevait de temps à autre et ces bijoux bizarres qui sortent nulle part et qui sont pas complètement fondus, mais jamais rien de bien sûr. Personne n'a jamais rien voulu croire. Pour eux, les machines dorées viennent d'un trésor de pirates et les gens d'Innsbruck ont du sang d'étrangers dans les veines ou bien alors il y en a qui sont tout galeux ou lépreux ou quelque chose. Et puis ceux d'ici ne se privent pas pour faire fuir les étrangers et encourager ceux qui y restent à pas se montrer trop curieux, surtout la nuit. Les bêtes, elles aimaient pas trop les créatures. Les chevaux encore pire que les mulets. Mais il n'y a plus de problème maintenant avec les autos. En 46, le capitaine Obed l'a pris une seconde femme que personne dans la ville n'a jamais vue. Il y en a qui pensent qu'il voulait pas, mais que les autres, qui les avaient fait venir, avaient décidé pour lui. Elle a eu 3 enfants avec elle, 2 qui ont disparu très jeunes, puis une fille qui avait l'air toute normale et qui a été envoyée faire ses études en Europe. Obed, elle a imaginé un coup fourré pour la faire épouser à un pauvre type d'Arkham qui se doutait de rien. Mais personne du dehors veut plus rien à faire avec le pape d'Innsbruck maintenant. Aujourd'hui, c'est Barnabas Marsh, le petit-fils du premier mariage d'Obed, qui dirige la raffinerie. Elle est née d'Onesiphorus, mais sa mère non plus, on l'a jamais vue. Maintenant, Barnabas l'est presque complètement changé. Il peut plus fermer ses yeux, il est tout déformé. Il porterait encore des vêtements, ce qu'on dit, mais il tardera pas à se mettre à l'eau. L'a peut-être même déjà essayé. Ils descendent des fois juste pour essayer avant d'y aller pour de bon. Ça fera bientôt 10 ans qu'on les a pas vus en ville. À se demander comment que sa pauvre femme, elle prend ça. Elle vient d'Ipswich et les gens de là-bas ont bien failli lyncher Barnabas quand il y a fait la cour, il y a de ça 50 ans. Obed l'est mort en 78 et toute la génération d'après, elle a fini par disparaître. Les enfants de sa première femme n'ont pas survécu. Quant aux autres, Dieu seul sait où qu'ils sont passés.
À mesure que le bruit de la marée montante se faisait plus insistant, l'humeur larmoyante du vieillard semblait petit à petit se muer en terreur vigilante. Il s'interrompait de temps à autre pour lancer de nouveaux regards nerveux par-dessus son épaule ou vers le récif. Et malgré la délirante invraisemblance de son récit, je ne pouvais m'empêcher de partager son appréhension croissante. Sa voix se fit plus stridente, comme s'il tentait de se donner du courage en parlant plus fort.
« Hé, hé, et vous là, pourquoi vous disiez rien ? Comment que ça vous plairait d'habiter une ville comme ça, avec tout ce qui pourrit et qui meurt, et plein de monstres enfermés qui rampent, qui bêlent, qui aboient et qui sautillent dans le noir des caves et des greniers, et que vous croisez dans tous les coins de rue ? Hein ? Comment que ça vous plairait d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et le siège de l'ordre à Dagon, et de savoir que les gosiers qui hurlent sont pas tous humains ? Comment que ça vous plairait d'entendre les bruits qui montent de cet affreux récif à Valpurgis et l'Halloween, hein ? Le croton est tout siphonné que vous devez penser, pas vrai ? Eh ben, accrochez-vous bien, monsieur, parce que je vous ai pas encore dit de pire.
Zadok criait à tue-tête. Désormais, la fureur démente de sa voix me perturba plus que je n'aurais voulu l'avouer.
Allez au diable à me regarder avec ces yeux-là. Je vous dis qu'Obed Mars rôtit en enfer et qui risque pas d'en sortir. En enfer, vous dites, peut pas m'avoir. Je n'ai jamais rien dit à personne. Si c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est ça que vous me demandez, jeune homme. J'ai jamais rien dit jusque-là, mais je vais le faire maintenant. « Accrochez-vous et ouvrez grand vos esgourdes, mon gars. Ce que vous allez entendre, je l'ai jamais raconté à personne. Je vous ai dit que je voulais plus rien savoir après cette nuit-là, mais ça m'a pas empêché de découvrir certaines choses. Vous voulez savoir ce qu'est le plus horrible, hein ? Écoutez-moi ça, c'est pas tant ce que ces poissons démoniaques ont fait que ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils remontent des choses, puis les profondeurs, d'où qu'ils viennent pour les mettre dans la ville. Ils font ça depuis des années, mais de moins en moins récemment. Tous ces maudits au nord de la rivière entre Water et Main Street en sont remplis. Et de ces diables et tout ce qu'ils ont remonté. Et quand ils seront prêts, je vous dis, ils avaient déjà entendu causer d'un chogot. Me suivez, hein ? Je vous dis que c'est quoi ces bêtes-là ? Je les ai vues une nuit, hein ? Eh-ya ! Eh-ya !
Le hurlement du vieillard fut si atrocement soudain, si empli d'inhumaine épouvante que je manquais d'effaillir. Ses yeux, qu'il avait rivés derrière moi sur les flots malodorants de l'océan, semblaient lui sortir des orbites, tandis que son visage se muait en un masque d'horreur digne de ceux de la tragédie grecque. Sa griffe osseuse laboura douloureusement la chair de mon épaule, et il resta comme pétrifié quand je tournai la tête pour tenter d'apercevoir ce qu'il avait vu. Il n'y avait rien à l'horizon, rien que la marée montante, troublé par endroits de rites peut-être plus proches que la ligne lointaine des brisants. Mais Zadok me secouait violemment à présent, et je me retournai pour voir son visage crispé par la peur se fondre en un chaos de paupières battantes et de lèvres convulsées. Il ne tarda pas à recouvrer sa voix, quand bien même ce n'était plus qu'un souffle frémissant.
« Fichez le camp d'ici ! Fichez le camp ! Ils nous ont repérés ! Courez si vous tenez à la vie ! Tout de suite. Ils savent maintenant, savez-vous. Vite, c'est le camp de cette ville. »
Une lourde vague déferla sur la maçonnerie branlante du quai en ruine, et le murmure dément du vieillard se mua une nouvelle fois en un cri inhumain qui me glaça le sang.
« Ia ! Ia ! »
Avant que j'aie pu reprendre mes esprits, il avait relâché sa prise sur mon épaule et s'était élancé vers l'intérieur des terres comme un dément. Je le vis tituber vers le nord derrière le mur de l'entrepôt délabré. Je regardais de nouveau les flots, mais n'y remarquais rien de particulier. Et quand j'atteignis Water Street et tournai la tête vers le nord, Zadok Allen avait disparu sans laisser de traces.